Lentement, il faut qu'elle le déplie, le déploie comme un objet trop vieux, fragile, une petite mécanique rouillée dont chaque élément pourrait céder, rompre, casser comme une brindille. Mais elle le fait. Il faut qu'elle se risque à regarder, et elle voit comment autour d'elle tout est blanchi. Déjà, en quelques minutes. La pluie et les grêlons ont laissé une plaque de glace, et elle se dit que malgré le vent, il va falloir sortir. Une seconde, elle se dit qu'elle va retrouver son cheval un peu plus bas. Il n'aura pas pu avancer davantage. Mais non, elle ne peut pas. Elle est cachée par le rocher, protégée. Elle est restée trop longtemps. Il faut sortir parce que c'est maintenant ou jamais. Si elle ne bouge pas et que la pluie, la grêle reprend, elle sait qu'elle va mourir. Et alors cette peur est si forte qu'elle s'extirpe de sa grotte improvisée et reprend sa marche. Je vais descendre. Je vais rejoindre la forêt. Ça va aller. Il faut surtout ne jamais s'arrêter parce que le froid va me tuer. Elle descend et autour d'elle, un brouillard épais bouche des passages entiers. Elle ne voit plus en bas. Tout est bouché. Et chaque pas est une progression hésitante, risquée. La glace prend partout. Les arêtes des pierres, la saignée qu'elle avait prise, semble s'être rétrécie. Et alors elle y va. Il le faut. Elle est restée combien de temps sous l'escarpement du rocher? Elle ne sait pas. Sans doute trop longtemps. Elle n'a pas la moindre idée de l'heure. À cet instant, elle ne pense plus à son cheval, qui est peut-être quelque part à l'abri, ou qui lui aussi s'est brisé les reins. Elle ne pense pas à Samuel ni à rien, pas même à elle-même, et à toutes les routes qu'elle a pu prendre dans sa vie et qui l'ont menée à celle-ci, aujourd'hui, à toutes les combinaisons réunies, tous les hasards, toutes les occasions de bifurquer qu'elle n'a pas su saisir. Elle n'y pense pas. Elle pense au froid qui la paralyse. Elle pense à son souffle. Elle pense à la peur d'être foudroyée. Car la foudre pourrait aussi la tuer d'un coup. Elle se demande même par quel miracle, par quelle chance n'est pas encore arrivée. Elle pense qu'on va la retrouver morte dans 2 ou 3 jours. Elle pense à la Corse. Pourquoi faut-il que Benoît ait eu raison aussi sur ça? Oui, elle a été incapable de sauver son fils de lui-même. Incapable de se sauver elle-même. De se racheter à ses propres yeux. Mais elle ne veut pas se résigner. L'image de Benoît la remplit de haine et de colère. Ça dure une seconde, un peu moins, oui. Elle avait raison pour Samuel quand elle pensait que la haine se retourne toujours contre soi. Car à cet instant, la haine qu'elle éprouve pour Benoît, son visage triomphant, son sourire méprisant, une seconde, elle le voit. Il est face à elle, et c'est le moment où elle n'est pas entièrement dans son geste de descendre, la seconde d'inattention. Son pied chasse sur le côté, entre dans les jambes, le poids du buste. Elle essaie de se retenir par les mains, mais elle ne peut rien saisir. Le corps entraîne le corps, la chute entraîne la chute. Et tout mouvement qui voudrait la retenir la précipite dans le brouillard, sur les rochers à pic. Elle n'en finit pas de heurter des pierres. Son sang se mêle aux rochers, à la glace. Dans un instant, elle aura fait une chute de plus de 8 mètres. Dans un instant, elle sera brisée, presque morte. Et dans un instant, le monde autour d'elle aura complètement disparu. Troisième partie. Continuez. L'année 1995 est une année où tout réussit à Sibylle. Les journées sont trop courtes pour elle. Les semaines filent trop vite. Mais en réalité, le temps peut accélérer comme il veut. Il n'a aucune chance contre elle. Sibylle court vite. Elle est boulimique de travail, d'amour, de tout. Sa vie d'interne dans les hôpitaux de Paris lui prend presque tout son temps, plus de 70 heures par semaine, parfois jusqu'à 90, 100 heures. Ce n'est pas toujours gratifiant, c'est même parfois franchement ingrat, mais elle apprend le métier, les codes, les hiérarchies. La chirurgie ne se laisse pas approcher si facilement. Sibylle n'a pas peur d'avaler des couleuvres, d'être corvéable. Elle regarde tout, elle observe, elle comprend. Il faut en passer par là. Le reste du temps, elle dort. Et puis, souvent, le matin, assez tard, vers 11 heures, elle entend la clé dans la porte de l'entrée. L'appartement parisien de la rue Lebrun est minuscule. Une odeur de croissant, de café, et puis l'homme qu'elle aime. On fait semblant de parler des nouvelles du jour. On prend le petit déjeuner en buvant des litres de café et en remplissant un cendrier de palmal. On fait l'amour avant et parfois après la douche. On reste au lit aussi longtemps qu'on peut, jusqu'au milieu de l'après-midi quand c'est possible. On écoute David Bowie, les Stooges,